C'est-à-dire qu'on ne se baigne que quand on est nombreux et en faisant du bruit.
Rendez-vous avec le cinéaste explorateur, Albert Mahuzier.
Et alors le crocodile s'en va à une distance respectueuse parce que ça fait du bruit.
Ce soir, à partir de 21h.
France Inter et France 4 présentent Florent Marchais.
Quand tu passes tes Noël, beau chalet à Courchevel.
Véritable révélation de la chanson pop, Florent Marchais est en tournée dans toute la France et en concert le 2 novembre au Casino de Paris. Retrouvez Florent Marchais dans le programme musical de France Inter. France Inter. La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h, passé de 4 minutes, l'heure de retrouver Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Et si vous songez aux vacances, une nouvelle destination riche de curiosités naturelles est en train de s'ouvrir, la Libye.
France 2.
Il y a 3 ans encore, le pays du colonel Kadhafi était hermétique. L'année dernière, 350 000 personnes sont venues profiter du désert et des oasis. En France, la destination séduit de plus en plus.
21 juin 2005.
Ce n'est plus un fruit défendu. Les dunes de Ghadames, au sud de Tripoli, faisaient rêver les amoureux du désert. Elles sont désormais accessibles aux touristes. La Libye s'ouvre et l'on vient même d'Amérique pour la visiter. Les deux États ont rétabli des relations diplomatiques il y a tout juste un an. Le pays du colonel Kadhafi ne fait plus peur.
La Libye est un lieu sûr, plus sûr que certains endroits aux États-Unis. On est en sécurité ici.
À Ghadames, on construit le premier établissement de luxe. La Banque nationale affiche le portrait de Muammar Kadhafi. Avec toi, ensemble jusqu'à l'infini, dit le slogan. Un infini que beaucoup ici imaginent constellé d'étoiles, celle des hôtels.
Ah, il est pas sympa, Kadhafi. Il est pas sympa. Faire tuer des gens, des civils, faire mitrailler par des mercenaires, des avions de chasse. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa pour Nicolas. Bah oui, Nicolas. Nicolas Sarkozy. Vous savez, après tout le mal qu'il s'est donné pour faire croire que la Libye était un pays respectable. Allez, salut.
Bonjour, c'est Alain de Haute-Savoie, Marna pour être précis, qui souhaite réagir sur la candidature d'Annecy 2018 aux Jeux Olympiques. On la veut pas cette candidature, il faut être clair. Hein. Moi je suis un ancien moniteur de ski, mon fils est moniteur de ski, je passe mon temps à courir la montagne. On en a marre des pollutions de toute nature, particulièrement dans la vallée du Mont-Blanc, où on subit un camion toutes les 3 minutes. On en a marre de la pollution, notamment de l'usine de Passy, et on voudrait bien que nos agriculteurs qui font encore vivre la plaine de Passy ne soient pas expropriés. Malheureusement, quand on tente d'aller le dire aux gens du CIO qui se sont déplacés jusqu'à nous il y a une dizaine de jours, eh bien, malheureusement, on est évacué manu militari par les forces de l'ordre. C'est un véritable déni de justice. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on crève sous le pognon en Haute-Savoie. On crève sous le pognon. Je n'exagère pas, c'est la vraie réalité et on en voudrait encore plus de quantitatif pour encore moins de qualitatif. Il y en a franchement marre. Moi, personnellement, en tant qu'amoureux de la montagne, si les Jeux Olympiques ne sont pas accordés à Annecy au mois de juillet prochain, en ce qui me concerne, ce sera Champagne. Voilà, c'était Alain de Marna. Merci pour votre émission, Daniel Mermet.
Merci pour votre émission sur les enjeux des Jeux Olympiques. J'aimerais vous raconter une petite expérience vécue à ce sujet. En 1984, à Lausanne en Suisse, la grande majorité des élus locaux avaient préparé un dossier de candidature pour les Jeux d'hiver, pensant que le bon peuple en serait heureux. Mais voilà, une petite bande de marginaux écolos avait réussi à faire organiser un référendum local au sujet de la garantie de déficit exigée par les organisateurs. Malgré une grosse campagne de presse pour ces Jeux, malgré les affirmations que les Jeux rapporteraient plus d'argent qu'ils ne coûteraient, des emplois en plus, malgré les promesses de respect de l'environnement, les habitants de Lausanne votèrent non à 60%. Quelle fessée pour la pourriture olympique, dont Lausanne abrite encore hélas ce siège international. On avait appris à l'époque qu'Albertville payait encore ses dettes pour les Jeux, et le simple refus de garantir l'inéluctable déficit des Jeux de l'Afrique les a vite fait partir la queue entre les jambes. Alors, salut et courage aux clairvoyants d'Annecy. C'était Pierre, de Lausanne, en Suisse.
Cette histoire de gaz de schiste est un énorme nuage noir sur notre belle région. Pourquoi ne pas investir l'argent de la recherche pétrolière dans d'autres domaines, par exemple la voiture à air comprimé? Notre cher ministre de l'Industrie va aller voir aux US comment ça se passe et ensuite, n'en doutons pas, il va importer cette superbe technique chez nous. Comme nous ne sommes pas d'accord du tout, mais alors pas du tout, rejoignez-nous pour une grande manifestation avec tous les collectifs de France, nos gazaranes. c'est le 26 février à 14h au rond-point des Pommiers à Villeneuve-de-Berre. Il faudra qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens pour que ce soit une énorme manif, non au gaz de schiste, parce que c'est une abomination. Merci.
Voilà, manif à Villeneuve-de-Berre sur le gaz de schiste. On a beaucoup de messages, vous avez laissé beaucoup de messages sur ce sujet et sur les mobilisations diverses et variées. Hélas, on ne peut pas tous les diffuser, mais on voit qu'il y a une forte mobilisation sur ce sujet. On est en train de faire des reportages et de vous préparer une émission sur ce sujet. Alors, vous avez vu notre président de la République qui est en dessous de tout dans les sondages, alors même qu'on s'émerveille de la popularité de Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Ça sent bon la France avec notre bon papy Chichi qui nous attendrit, alors que quand même dans quelques jours s'ouvre son procès le 7 mars. C'est le procès dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, dont Jacques Chirac était le maire dans les années 90, poursuite pour détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d'intérêts, etc. Et puis, des affaires comme celle-là, il y en a d'autres. Le financement illégal du RPR, l'affaire des frais de bouche, l'affaire du château de Bitti, l'affaire du comte japonais. Ça en fait des affaires. Bon, c'est du vu, mais enfin, bon, écoutez, voilà, c'est notre bon papy Chichi qui sent si bon la France au salon de l'agriculture. Voilà, faudrait un peu tourner la page et passer l'éponge. D'autant plus que là-bas, si j'y suis, il avait déjà fait le procès de Jacques Chirac. Mais oui, bien sûr, et alors qu'il était président, pas après qu'il l'ait été, mais pendant qu'il l'était. En 2003, en effet, l'équipe de là-bas, si j'y suis, pas seul, avait fait ce procès de JC. Pas seul parce que on était avec un certain nombre de journalistes, d'avocats, de comédiens au Divan du Monde, ce 5 et 6 mai 2003, et ce procès a bel et bien eu lieu avec Frédéric Pagès, avec Hervé Liffrand, avec Huguette Dreykos, avec Lim, avec Bertrand Roté, avec Jean-Bernard Pouy, avec Gérard Mordilla, et puis évidemment avec Jean-Baptiste Botul, le président Jacques Chirac avait été déjà jugé. Et ça s'était quand même pas trop mal passé, on va s'en rendre compte dans l'émission d'aujourd'hui, le numéro d'aujourd'hui de là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de cette émission modeste et géniale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Bon, bah voilà, c'est reparti. DSK, le candidat des médias. On nous fait croire que ce type serait une alternative crédible à Sarkozy. Ce serait peut-être une alternance, mais en rien une alternative. Ça fait au moins depuis 1983 que le PS n'est plus socialiste. Mais alors là, c'est carrément l'aile droite du PS, DSK. DSK ou FMI, c'est des programmes d'ajustement structurel, que ce soit pour la Grèce ou pour des pays dits du Sud. Voilà, c'est virer les fonctionnaires, privatiser à tout va. DSK, c'est ça. Donc il n'y a aucune différence avec Sarkozy, sauf peut-être dans la forme. Donc on n'en a rien à foutre de DSK.
Aux AMG d'Alès et de sa région, votre café repère aura lieu ce mercredi 23 février à 19h au lieu habituel, le Vintage by Café, route du pont de Grabieux, à Alès. Ce soir, nous parlerons de cette nouvelle menace économique engendrée par ce qui est, pour l'instant, un permis d'exploration sur la présence ou non du gaz de schiste, et notamment nous parlerons du permis concernant le bassin d'Alès. Voilà, à ce soir.
Allô, salut Daniel et l'équipe de là-bas si j'y suis. Je téléphonais parce que je suis allé au forum de l'emploi agricole à Vauvert et les conditions de travail qu'on me proposait, c'était 60 heures par semaine. 35 heures payées au SMIC, de 35 à 43 heures avec majoration de 25%, et le reste de 43 à 63 heures, à 60 heures reportées en fin de contrat payées au SMIC. Voilà, c'était pour montrer un bel exemple de dumping social. Salutations à tous.
La grande distribution est pleine de bonnes intentions. Elle se prévaut de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Elle met en avant son engagement éthique en proposant des produits issus du commerce équitable. Elle affiche son projet écologique sur les sacs qu'elle met à la disposition de ses clients ou encore par le bilan carbone visible, car imprimé sur ses emballages, etc. Pourquoi ces bonnes intentions ne sont-elles pas complétées par un bilan social ? Nous connaîtrions alors le niveau de satisfaction des salariés à travailler pour ces grands commerçants. Nous serions également informés du niveau d'équilibre de leurs relations avec leurs fournisseurs. Nous pourrions alors encourager et soutenir de manière définitivement délibérée l'engagement de ces entreprises. Ce bilan serait ainsi un critère déterminant dans le choix de l'enseigne à laquelle nous confierions notre consommation. C'est cette question que les AMG du repère de Challans en Vendée aborderont mercredi 23, le dernier du mois. En effet, désormais et compte tenu de l'intérêt que suscitent les débats, les AMG de Vendée et d'alentour se rencontrent désormais le deuxième et le dernier mercredi du mois à 20h au café Le Danube à Challans. C'était Pierre à La Roche-sur-Yon.
Bonjour, le soleil du soir est en train de tomber sur Mayotte, sur le lagon, il fait très très beau. Demain, il y a une grande manifestation et la manifestation a déjà démarré en fait quand la Bassis-J'y-Suis commencera, qui est en mémoire aux milliers de victimes en mer depuis 1995. On ne sait pas combien il y en a eu, c'est impossible à compter, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Et demain soir, c'est une première grande manifestation à l'appel tout d'abord de quatre organisations, la FSU, le RESF de Mayotte, la CIMAD et Sud. L'éducation est soutenue au niveau national et international par des organisations comme le GISTI, le MRAP, allant jusqu'à Mgr Gaillot assez récemment. Alors se souvenir d'eux, c'est aussi revendiquer la fin d'une hécatombe. Mayotte est belle, mais Mayotte est aussi le lieu où 26 405 reconduites ont été faites l'an dernier, en 2010. Ce qui représente plus d'une personne sur 10 à Mayotte. Ce n'est pas contre les Mahorais cette manifestation, c'est bien une manifestation contre le non-respect de l'homme. Merci.
Salut les AMG, salut Daniel, c'est Ludo de Tours pour annoncer un café repère ce soir à 19h30 au Serpent Volant, c'est rue du Grand Marché. Voilà, bonne émission à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie J'y suis, le tribunal des condamnés d'avance, le procès de JC.
Monsieur Chirac Jacques, contre ministère public. Faites entrer l'accusé.
Oui, monsieur le président. Monsieur Jacques Chirac est absent et la défense a quelques observations à formuler quant à son absence.
Développé.
Oui, monsieur le président, messieurs les conseillers, messieurs de la cour, vous semblez étonné de l'absence de monsieur Chirac, sauf qu'une analyse exhaustive de la procédure m'amène à affirmer aujourd'hui sans la moindre marge d'erreur que monsieur Jacques Chirac n'a pas été cité à comparaître à votre audience. Pas de citation, donc pas de saisine, donc pas de cours, donc pas de procès. En revoir et rendez-vous chez Michou. Ce d'autant, monsieur le président, messieurs, qu'à supposer même que monsieur Chirac ait été convoqué, il se trouve qu'il n'aurait pas pu se présenter à votre audience. Cela s'appelle la loi de nos députés et sénateurs. Vous savez, ces gens que nous avons élus au suffrage universel. En même temps que c'est la loi d'un certain conseil constitutionnel dont votre cour n'a rien à faire, j'en conviens. En même temps que c'est aussi la loi de la cour de cassation, c'est une juridiction dont la cour, semble-t-il, ne sait rien, mais c'est important. Bref, un, vous n'êtes pas saisi, 2, vous ne pouvez pas être saisi. Donc je résumerai, vive le code pénal, vive la France et vive la République.
Très bien, merci maître. Madame le procureur, avez-vous des observations ?
Maître, vous êtes volubile, c'est votre métier, vous êtes payé pour et vous défendez n'importe qui. Je suis quand même étonnée que monsieur le président soit absent, puisqu'il a quand même dit, devant la réunion des préfets en 2001, beaucoup d'infractions ne sont même plus déclarées, car quand elles le sont, elles échappent de plus en plus aux poursuites. Il est donc l'exemple même et il illustre bien cette phrase. Nous dirons donc que le président, soit il a peur, soit, et je le cite, il aura dit dans votre cabinet, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre.
Très bien. Après consultation de mes assesseurs, la Cour décide courageusement que l'incident est joint au fond. Il sera donc statué sur votre demande à l'issue du présent procès et nous allons entendre le premier témoin dans la première affaire, l'affaire des frais de bouche. Alors, le témoin est monsieur Bertrand Toré. Est-ce que le témoin peut venir jusqu'à la barre? Alors, monsieur Bertrand Toré, vous allez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Votre profession est restaurateur.
Je confirme.
Je rappelle brièvement les faits. Une enquête de l'inspection de la ville de Paris révèle que lorsqu'il habitait à l'hôtel de ville de Paris, le couple Chirac a dépensé pour 4400 francs par jour de nourriture variée, vin non compris. Il s'agit de la consommation personnelle de monsieur et de madame Chirac et non de leurs frais de représentation. Une plainte a été déposée par les services fiscaux. Les juges d'instruction soupçonnent une affaire de fausse facture. Alors voilà, vous étiez le cuisinier personnel de monsieur Chirac, chargé de faire les courses et les dépenses de bouche. Entre 1987 et 1995, les dépenses alimentaires pour l'appartement des Chirac s'élèvent à 14,08 millions de francs, c'est-à-dire 1,408 millions de centimes. Et c'est vous qui aviez la charge de ces dépenses. Alors expliquez-nous comment vous y preniez, comment l'argent entrait et sortait de votre cassette. Voici cette cassette. Elle est absolument vide, hormis quelques punaises. Éclairez la cour, monsieur Toré.
Ah, moi, je sais pas, moi, où passer l'argent.
Monsieur Toré, pour le seul réveillon du 31 décembre 1994, toujours selon cette enquête de l'inspection de la ville de Paris, pour ce réveillon, la note s'élève à 142 159 francs, vin et cigares non compris.
Oui, c'est moi qui ai fait à dîner ce soir-là. Donc
pour 142 159 francs.
Jamais j'ai fait à manger pour 142 500 francs, c'est pas possible.
Alors vous mettez en doute l'enquête de l'inspection de la ville de Paris.
Ah non, parce que je mets pas en doute. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, jamais... Personne ne peut manger 142 500 francs en un repas, je veux dire, effectivement. Je veux dire, je vais pas vous faire la preuve que c'est impossible.
Quelle relation vous avez gardée avec les Chirac ?
Ah, moi, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai jamais eu d'employé, d'employeur d'aussi bonne qualité. Je veux dire, effectivement, 10 ans après, ils m'envoient encore leur vue. Pardon ?
Continuez, monsieur Toré.
10 ans après, ces gens m'envoient encore leurs vœux, prennent soin.
Et vous, monsieur Toré, est-ce que vous étiez attentif
à ce qui s'est passé
avec votre caisse ?
Je veux dire, effectivement, madame, elle a perdu 10 kilos avec moi. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, je pense que c'était le rêve de sa vie. Donc,
à 4000 francs par jour.
Il y a un marchand de légumes installé vers la Bastille, si mes renseignements sont bons, qui a produit des factures pour 200 000 francs de facture.
Je suis désolé, ce monsieur m'a vendu des légumes.
Oui, mais dans quelle quantité, dans quelle proportion ?
Je veux dire, le potage de légumes de madame. Pourquoi ? Je veux dire, effectivement, c'est-à-dire un poireau de tomate, mais pas grand-chose de plus.
Bertrand Toré, merci beaucoup. Vous nous remettez cette cassette. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder l'affaire suivante, l'affaire de l'imprimerie Sempap. Le témoin est monsieur Mordilla Gérard. Est-ce que le témoin veut bien venir jusqu'à là-bas ? Donc, vous êtes directeur de société, vous êtes militaire en retraite.
Affirmatif.
Vous êtes mis en examen complice de détournement de fonds publics.
Affirmatif.
Les faits, les voici. Plainte déposée pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Affaire instruite par le juge Ribrol. La société concernée est la Sempap, Société d'économie parisienne de prestations, chargée d'assurer les travaux d'imprimerie de la ville de Paris.
Affirmatif.
Les factures payées par la ville de Paris auraient été, durant 9 ans, gonflé de 25 à 40%.
Je l'ignore.
Période concernée de 1986 à 1995, c'est-à-dire pas tout à fait 10 ans, argent évaporé entre 28 et 87 millions d'euros, selon les estimations, donc entre 200 et 500 millions de francs. Alors, monsieur Mordillat, expliquez-nous. On sait que l'imprimerie pour la ville de Paris est un marché considérable et il existait une régie municipale.
Ah oui, il existait une régie municipale avant. Mais quand monsieur Chirac a été élu maire de Paris, ce n'était plus possible. Vous comprenez, c'était une sorte de repère de socialo-communiste sous la coupe du livre CGT. Donc, on m'a chargé de faire le ménage, c'est ce que j'ai fait.
Donc, cette régie a été fermée, et puis s'est ouverte cette société d'économie mixte, la SEMPAP.
Eh bien oui, la politique du maire de Paris était de favoriser l'entreprise privée. Et donc, nous avons créé la SEMPAP.
Avec combien de salariés ?
Combien ? Mais un seul ? Moi ? Bien avant, il y en avait trop. Vous savez, hein, les cocos, il faut toujours être quatre pour planter un clou.
Et comment se fait-il que les frais aient augmenté dans de telles proportions alors que vous étiez le seul employé ?
Ah mais parce que je faisais du travail de qualité. Avant, c'était salopé. Après moi, non, c'était...
Combien de sociétés il y avait derrière vous ?
Eh bien... Nous avons été amenés, dans le cadre de développement de l'entreprise, à créer, je ne sais pas, 20 ou 23 sociétés.
Avec combien d'ouvriers chaque fois ?
Ah, énormément d'ouvriers, mais cela, je ne les voyais pas.
Il y avait chaque fois un directeur, dans un bureau, avec une boîte aux lettres et un téléphone.
Pour diriger, il faut simplement ça, un téléphone et un bureau.
Il n'y avait pas votre épouse aussi, comme directrice d'une de ces entreprises ?
Madame Monique Mordillat, parmi les gérantes de ces sociétés, effectivement. Monique Mordillat.
Ma femme était parfaitement compétente pour gérer cette société. Vous savez, la compétence n'a pas de famille. La compétence, c'est la compétence. La compétence n'a pas d'intérêt. Donc, il fallait s'adresser à nos amis les plus proches, comme me disait Monsieur Pendreau. Adressez-vous à ceux qui sont avec nous. Donc, je me suis adressé à ma femme, à mon fils, à mon gendre. Enfin, voilà.
Vous avez un chromosome de direction, Monsieur Mordillat.
Je suis un militaire, madame. J'obéis.
Est-ce que vous procédiez à des appels d'offres, monsieur Mordillat ?
Je ne connais pas l'appel d'offres. Je connais éventuellement l'appel aux couleurs, mais c'est tout. Moi, je suis un donneur d'ordres. Je donnais des ordres, on obéissait. Pardon, on exécutait mes ordres.
Alors, parmi les sociétés que vous avez créées, il y en a qui s'appelaient Paracom, Copama. Quelles étaient les vocations de ces sociétés ?
Ah bien, c'était des sociétés d'imprimerie. Paracom, ça veut dire paracommando. Et Copama, bah, c'est tout simplement commando marine parachutiste. Ça va de soi, non ?
Et l'imprimerie dans tout ça, monsieur Mordillat ?
Mais l'imprimerie, c'était une mission, l'imprimerie. Il fallait se débarrasser des cocos et de la CGT.
Oui, ça c'est votre excuse.
Ah non, c'était mon devoir. C'était mon devoir.
Vous deviez rendre des comptes et surtout de l'argent à qui ?
L'argent ne comptait pas. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait le drapeau, et c'est tout.
Alors, il y a tout de même eu deux rapports de l'inspection générale de la ville de Paris mettant en garde M. Chirac, maire de Paris, sur vos pratiques et sur vos méthodes.
Monsieur le Président, si vous me permettez, je crois que notre société se divise en deux parties. Il y a d'un côté les fonctionnaires et de l'autre côté ceux qui travaillent. Moi, je fais partie de ceux qui travaillent. Les fonctionnaires qui... n'ont rien d'autre à faire qu'être fonctionnaires, font des rapports. Alors, nécessairement, ils ont fait des rapports, ça ne m'a pas empêché de travailler.
Très bien, la défense.
On remarque qu'il y avait là un marché qui a été régulièrement attribué et des fonctions d'imprimerie qui ont été tout à fait légitimement remplies. Je constate que l'accusation, malgré... ses talents et sa véhémence ne sort pas de là, et j'ai presque du mal à comprendre pourquoi ce témoin a été cité.
J'ai aussi beaucoup de mal à comprendre ma présence ici, en tant que militaire et en tant qu'imprimeur.
Madame le procureur ?
Tout non. Ça ne nous dit toujours pas où sont passés les 87 millions d'euros que vous avez quand même encaissés.
Écoutez, ne me parlez pas en euros. D'abord, je n'y comprends rien. Ensuite, je suis contre. Alors...
Merci, monsieur Mordillat.
Alors, nous allons aborder l'affaire suivante. Des emplois fictifs. Alors, peu à peu, sur ce document, on reconnaît autour du président de ce tribunal, que vous avez peut-être déjà reconnu, on reconnaît des gens, des journalistes, comme Frédéric Pagès, comme Hervé Liffrand, le procureur, qui ressemble beaucoup à une comédienne qui s'appelle Huguette Trécos, des avocats qui ressemblent à de vrais avocats. L'accusé n'est pas là, il est excusé. Mais on vient de voir quelqu'un comme Lim, un comédien, Bertrand Rotté et Jean-Bernard Puy, bien connu également, Gérard Mordillat et beaucoup d'autres personnages extrêmement troubles.
Monsieur Udiani Michel, vous êtes né le 18 juin 1964 à Ajaccio.
Ouais.
Fonctionnaire municipal.
Employé municipal, monsieur le président.
Monsieur Udiani Michel, je vous demandais de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure.
Si c'est la droite, je veux bien. Je le jure.
Bien. Alors, dans l'affaire des emplois fictifs, Monsieur Jacques Chirac est accusé d'avoir usé de son influence pour faire employer par la ville de Paris des personnes travaillant pour le RPR. Monsieur Udiani, vous êtes puériculteur dans une crèche du 5e arrondissement. On peut vous demander quel a été votre parcours professionnel.
Bien sûr, monsieur le président. En 82, j'ai commencé mon service militaire à la gendarmerie, donc jusqu'en 86.
Vous avez redoublé, monsieur Huguette.
Attention, j'ai gardé des copains chez les gendarmes, quand même. Donc après, en 86, belle année. Donc là, je suis devenu gendarme d'élite pour la protection rapprochée du couple Chirac. En 89, je suis devenu prédriculteur. Prédriculteur dans une crèche du 5e arrondissement. Comme monsieur le président l'a juste dit.
C'est quoi la périculture pour vous?
C'est un petit peu la sécurité très jeune maintenant, parce que très jeune, il délinque maintenant. Hein. Je leur apprends aux enfants plein de trucs, comme reconnaître la physionomie. Je leur apprends à savoir d'où viennent les tirs, à reconnaître...
Monsieur Udiani, sur plusieurs photos publiées dans des journaux versés au dossier, on vous voit à plusieurs reprises accompagner le couple Chirac dans de nombreux voyages. Pour la seule année 1995 aux États-Unis pendant 10 jours, à La Réunion pendant 8 jours, à la Martinique et à la Guadeloupe pendant 12 jours, en Pologne pendant 3 jours, en Espagne pendant 4 jours, 4 fois en Allemagne, au total 17 jours. Et il est noté que vous n'avez pas été une seule fois absente de votre travail.
Éclairez la cour.
Je ne comprends pas, c'est de la diffamation photographique.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre salaire comme puériculteur?
Approximativement.
Hein. Oui.
À peu près 6500 euros.
Très bien.
Je ne comprends pas ce que je fais là, hein. Je ne comprends pas. C'est quoi un emploi fictif?
Non, mais la défense ne comprend pas non plus pourquoi vous êtes là, monsieur. Vous semblez présenter toutes les qualités pour vous occuper des enfants. Et moi, ce côté éducatif musclé, j'avoue que ça m'a convaincue. Hein.
J'ajouterais qu'ayant des enfants et des jeunes garçons, ils seraient ravis, absolument ravis, d'avoir un éducateur comme vous qui leur apprendrait le tir et la visée, la façon de se protéger, la façon d'attaquer. Et je crois qu'il faut qu'il y ait plus de puériculteurs comme vous. Je vous remercie, monsieur.
Grâce à Sarkozy, la sécurité fait son retour dans ce pays. J'en suis ravi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ces messieurs dames. Voilà.
Très bien. Monsieur Udiani, on vous remercie. La Cour souhaiterait que soit dressé un portrait psychologique de l'accusé. Aussi, nous faisons appel au docteur Letellier, qui va bien vouloir nous rejoindre. Docteur Letellier, qu'est-ce que vous avez à déclarer à la Cour?
Tout d'abord, je voudrais rappeler que le président Chirac est le fils unique
dans une famille de 20 enfants. Mais, cas particulier, et c'est important pour comprendre sa personnalité, il est en fait, et c'est dramatique, le second enfant, puisque avant lui, il y a eu une petite fille qui s'appelait Jacqueline. Donc nous avons ce qu'on appelle en psychanalyse le phénomène de Lazare. Il est le deuxième enfant après une petite fille disparue. Comme c'est le deuxième enfant après une petite fille disparue, toute l'affection de sa mère s'est reportée sur lui, et elle le définissait d'ailleurs comme l'enfant du miracle. C'est important de comprendre ceci pour comprendre le reste. L'enfant du miracle, c'est un enfant qu'on choisit. Un enfant qui rentre de l'école, et lorsqu'il rentre de l'école, sa mère a mis sur la table de la cuisine une petite sucette dont elle a insisté pour que soit dépiautée afin qu'il n'y ait pas de geste inutile. Par la suite, le petit Jacques, donc, qui est un fils unique, va avoir les défauts d'un fils unique. Quels sont les défauts d'un fils unique moi-même, fils de fils unique, petit-fils de fils unique? Il y a ce désir permanent d'être aimé. Je peux en témoigner. Et donc, sans ce désir permanent d'être aimé, il y a la volonté de plaire. Et qui dit plaire à tout le monde. Et c'est ce qui explique, chez Jacques Chirac, cette capacité parfaitement convulsive de passer d'une opinion à une autre, d'un costume à un autre, sans jamais, finalement, se sentir gêné par ce basculement psychologique. C'est important à le comprendre, autant que la sucette, au moins. Par la suite, il y a, et je crois qu'il faut le dire, comme dans tous les fils uniques, cette incapacité à confronter, à s'affronter au frère, à la sœur. Donc, il va développer une personnalité par l'adoption de mentors. Qui sont ces mentors? Alors, il y a bien sûr Madame Mère, dont j'ai parlé, qui finalement ressemble terriblement à son fils, à moins que ce ne soit l'inverse. Et puis, il y a plus tard le général Brosset. Qui est le général Brosset? Le général Brosset est un homme qui, le 14 août 1944, au soir, à la tête de la première division, entre dans la maison des Chirac pour demander l'hospitalité, et là, le petit Chirac, 12 ans, nous sommes en 44, il est né en 32, découvre cet homme, cette figure paternelle très puissante, pour laquelle il va immédiatement sentir une adhésion totale, et ce sera le début de cette période qu'on va appeler fanamili, fanatique militaire, qu'il conduira après Sciences Po à faire Saumur, à faire Saumur, voilà, non, parce que certains ne comprennent pas ce que veut dire Saumur, donc... Je vous rappelle que c'est quand même un cadre militaire très strict, et a adopté une posture de fanatique vis-à-vis des questions militaires. Le troisième personne qui va compter pour lui, et je m'excuse de devoir consulter mes notes car j'ai peur d'écorcher son nom, c'est un professeur, sans le sou, d'origine russe, un russe blanc, M. Delanovitch, que les parents de M. Chirac vont finir par héberger car il voulait apprendre le sanskrit. Delanovitch, c'est lui qui va finalement donner à Jacques Chirac ce goût qui va lui rester pour l'art chinois, pour la civilisation perse et, de manière générale, pour les arts primitifs. Ce sont donc ces trois mentors qui, aujourd'hui encore, sont présents dans son esprit et qui gouvernent sa vie. Mais il faut préciser également que c'est un garçon soumis. Un garçon soumis à son père, le rude François Chirac, un homme difficile de caractère, souvent absent, ce qu'on peut appeler, dans le langage rude de l'aristocratie, un parvenu. Et oui, car François Chirac est en fait le fils d'un instituteur, et il a commencé sa carrière comme employé de banque à Clermont-Ferrand, mais rapidement, il monte à Paris, où il devient administrateur de société. Et là, dans un très vaste appartement, puisqu'il peut héberger M. Delanovitch, il est malheureusement très absent, mais il dirige son fils d'une poigne de fer. Et ce fils... comme il le trouve assez peu viril, il l'envoie sur un cargo. Cargo qui part sur les flots. Et comme nous sommes en été, nous sommes à Dunkerque, en 1956, le petit Chirac ne veut pas débarquer. Il veut rester en mer, devenir capitaine. Que fait le père? Il va le chercher, il le force à descendre. On voit donc qu'on a affaire à un caractère d'insoumis, mais d'insoumis docile. C'est un cas assez complexe au niveau conflictuel, puisque malgré une volonté de devenir explorateur, de devenir capitaine au long cours, de devenir archéologue, tous ces désirs fondamentaux du jeune Chirac, de Jackie comme l'appelle sa maman, sont contredits, sont compromis, sont annihilés par un père difficile. Cette affaire du cargo révèle bien le personnage et permet de mieux comprendre pourquoi plus tard il deviendra explorateur, mais autrement. Que va-t-il explorer ? Eh bien, il va explorer quelque chose qu'il ne connaît pas, mais qu'il convoite énormément. C'est ce qu'on peut appeler la famille Chaudron de Courcelles. La famille Chaudron de Courcelles, c'est un monde en soi, pour un petit-fils d'instituteur de Corrèze. Et la famille Chaudron de Courcelles, dont il épousera la fille, Bernadette, en 1956, à l'église Sainte-Clotilde, dans la petite annexe, malheureusement, car les parents de la famille n'ont pas voulu qu'il se marie dans la grande chapelle, c'est une manière de l'humilier, de lui faire sentir quel était son rang, et de lui répéter régulièrement « Jacques, vous n'auriez jamais dû rentrer dans la famille », eh bien, Chirac va essayer de combiner cette exploration d'un monde qu'il ne connaît pas, tout en essayant en permanence, finalement, de s'y affronter. Donc il cherche à la fois la particule et l'argent que représente la famille Chaudron de Courcelles, et simultanément, il la provoque par une attitude extrêmement violente, avec des mots qu'on a cités, prononcés à l'occasion de la rencontre avec Margaret Thatcher. « Qu'est-ce qu'elle me veut, la ménagère? Que je mette mes couilles sur un plateau ?» Voilà une expression qui ne départ pas dans la bouche de Jacques Chirac, car en effet, on voit bien que c'est par cela qu'il s'affirme, par le langage, par la violence, et je crois que c'est un des éléments importants de sa personnalité. Alors, pour conclure, c'est un personnage qui a malgré tout, bien que on puisse trouver des dimensions schizophréniques dans sa capacité à mentir, mais le mensonge, que serait la vie sans lui, comme disait Anatole France, à peu près. Giscard, pour parler de sa prépension à pouvoir mentir, disait par exemple, vous prenez Chirac devant un pot de confiture. Il a les mains dans la confiture, la bouche pleine de confiture. Le pot est devant lui, il est ouvert, le couvercle est posé. Et vous lui dites, mais Jacques, vous mangez de la confiture? Que vous répond Chirac? Il dit, non, monsieur le président, je ne mange pas de confiture. Eh bien, cette capacité en permanence, fort bien résumée par Giscard, c'est le fondamental. Il n'y a pas de mensonge, car il n'y a pas de contre-vérité. C'est une autre vérité. C'est ailleurs. C'est une autre facette du monde. C'est un univers parallèle où il n'y aurait pas de confiture, pas de pot de confiture, pas de traces sur les doigts. Et c'est vrai aussi, quelque part, sous les vêtements, nous sommes nus. Et sur les doigts de confiture, il n'y a pas de confiture non plus. Les atomes ne se touchent pas. Je crois qu'on peut résumer ainsi les personnalités de Jacques Chirac. Quant à savoir s'il est responsable pénalement, je pense qu'on peut répondre oui, l'homme est sain d'esprit, malgré des tendances à la schizophrénie et à la paranoïa, mais qui ne l'est pas. Sa vision de la vérité n'est pas très éloignée de certains confrères du barreau que je connais. Et donc, finalement, je dirais que cet homme a de fortes chances de pouvoir se réhabiliter. La famille est aisée, peut lui payer un infirmier de manière permanente. Et je conclurai ainsi en disant que, sans doute, la possibilité non seulement de sa réhabilitation, mais de sa réinsertion sociale sont fortes. Et je demande à ce qu'il en soit tenu compte dans ce procès.
Merci beaucoup, docteur Le Tellier, de gagner la salle.
Et nous allons aborder le dixième dossier, la dixième affaire, celle de l'affaire des faux électeurs. Et nous allons demander aux témoins de bien vouloir venir jusqu'à la barre, monsieur Henri Cueco. Monsieur Henri Cueco.
Monsieur le Président.
Vous allez prêter serment, jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, lever la main droite et dire je le jure.
C'est fait.
Je le jure.
C'est fait.
Monsieur Henri Cueco, vous êtes veuf.
Depuis quand? Ça alors, quelle nouvelle! Bon. Vous voulez me déstabiliser, monsieur le Président.
Vous êtes agriculteur.
Enfin, je l'ai été, oui. Plus précisément, je ne suis pas non-agriculteur. Pas tout à fait la même chose.
Bien, vous demeurez à Meymac?
En principe, oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire Meymac?
C'est une petite ville avec un clocher. Des rues qui montent et les mêmes rues qui descendent quand on les prend dans l'autre sens. C'est très bien.
Est-ce que vous diriez que c'est un village caractéristique de la Corrèze?
Ah, absolument.
Monsieur Henri Cueco, Voici les faits. Une plainte a été déposée pour fraude électorale contre Jacques Chirac concernant les élections municipales de Paris en 1989.
Et alors ? Je ne suis pas au courant, mais rien de tout ça ne me choque. Des vrais électeurs, c'est des électeurs qui vous sont favorables. Des faux électeurs, à plus forte raison, alors je vois pas ce que ça change. En tout cas, moi, je ne suis pas un faux électeur. Vous me voyez, je suis en vrai. Eh bien, quand je vote, où que ce soit que je vote, c'est en vrai. Je ne me vois pas en faux. Non, vraiment.
Monsieur Cueco, vous nous avez dit habiter à Meymac, en Corrèze, et vous avez fait une description très convaincante de cette petite ville. Mais quelle est votre adresse précise ?
Ah, eh bien, écoutez, en ce moment, mon adresse n'est pas très précise. J'ai tendance à circuler, c'est selon mes emplois, qui ne sont pas fictifs. D'ailleurs, on m'avait écrit sur un papier ce que je devais répondre. Il y a écrit « emploi fictif », non.
Est-ce que vous n'avez pas exercé la profession d'électeur professionnel, monsieur Cueco ?
Ah, attendez. Non.
Pourtant, on vous connaît plusieurs adresses, monsieur Cueco.
Ben, ce sont des adresses de proximité. Lorsque je dois voter dans le troisième, autant avoir un logement dans le troisième.
C'est très juste, monsieur Cueco. Êtes-vous électeur en Corrèze aussi ?
Pas en ce moment.
Mais votre femme, oui.
Comment ma femme ? Elle va mieux alors.
Pour toutes les élections, oui. Elle subit le phénomène chevènement.
C'est quoi, madame ?
La résurrection, monsieur. La résurrection.
Merci pour lui.
Êtes-vous, oui ou non, un faux électeur ?
Ah non, un vrai. Où que je passe, je vote vraiment. Dites-moi ce que ça pourrait être un faux électeur. Non, je ne comprends pas la question.
Bien, alors y a-t-il des observations, madame le procureur, des questions ?
Oui, monsieur Cueco, vous voulez dire que vous avez participé à un genre de république bananière du fin fond de votre Corrèze ?
Oh, je ne dirais pas ça. Je dirais que, dans l'ensemble, c'est pas vraiment une dictature, sinon une dictature améliorée par la corruption.
La défense ?
Oui, monsieur Cueco, vous nous avez indiqué que vous ne pouviez pas être un faux électeur. Et je crois que vous avez sollicité de la Cour qu'on vous explique ce qu'était un faux électeur. Monsieur oui. Le Président, vous a-t-il donné une réponse ? Ou madame le procureur, vous a-t-elle donné une réponse ?
Non.
On peut donc en conclure que le concept de faux électeur n'existe pas ?
Le concept, non.
Bien. Donc...
Très bien. Pour le réquisitoire, la parole est à madame le procureur.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, nous avons à juger aujourd'hui un homme par contumace, un homme chargé des plus hautes responsabilités de l'État et qui ne prend pas les siennes en étant présent ici et maintenant, nunc et hodie. Mesdames et messieurs, ce n'est pas de la délinquance, c'est du Zola pour fête patronale. Je vous demande, monsieur le Président, mesdames et messieurs du jury, si là, on ne tombe pas un peu dans le côté rapia d'un couple décrit dans les romans du 19e siècle. Et rien ne se perd dans la boîte aux biscuits, puisque madame ramasse même les pièces jaunes. Alors, condamnons-le à 115 ans de réclusion criminelle, pour avoir le temps de méditer sur cette affaire, de compter euro après euro, centime d'euro après euro, tous les sous qui lui sont passés par la main. Et demandons au bon docteur Grubler, qui sait si faire de grands miracles en matière de santé, de le préserver encore 115 ans au début de son incarcération, afin qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa peine.
Merci. Alors, la défense a la parole. Maître Moineau.
Mesdames et messieurs, messieurs des renseignements généraux, jusqu'à présent très discrets, mais qui ont pris des notes très précises, qui serviront à nous distraire quand nous nous retrouverons à Fleury-Mérogis. Vous avez assisté à un procès, mais c'est un procès en réalité médiatique, car vous l'avez bien vu, dès que l'on va dans les détails, eh bien la réalité judiciaire, vous en avez eu un aperçu, rien ne transparaît. Et bien sûr, rien ne transparaît parce qu'il n'y a rien au dossier. C'est la phrase consacrée, je la prononce ce soir. Qu'est-ce qu'un procès médiatique? Eh bien, un procès médiatique, c'est celui de la rumeur. Ce soir, nous avons considéré que Chirac était super voleur. Il y a 20 ans, on aurait jugé ici, dans les mêmes circonstances, facho Chirac. Il y a 10 ans, on aurait jugé crétin Chirac. Et il y a 3 ans, on aurait jugé super menteur. Alors, Chirac et l'argent, dans ce procès médiatique, on a vu les médias se trompent régulièrement, se sont toujours trompés, mais il faut quand même répondre. Alors, voilà, super voleur, le gentleman carambouilleur, eh bien, il a volé la vedette à facho Chirac, à crétin Chirac, à super menteur. Demain, on jugera sans doute macho Chirac, mégalo chichi, super saligo, peut-être mieux super salopio, parce que ça fera une double allitération en S et en P. Et me voilà sur l'argent. L'argent qui rend fou, disait Mitterrand, sans doute en pensant à son ami Roger Patrice Pelat ou au nouvel appartement de Jack Lang, place des Vosges. Cet argent qui, avec Christian de la Malène, circulait à Paris avant Jacques Chirac, qui, avec Gaston Defer, naviguait à Marseille, qui, avec Pierre Mauroy, fleurissait à Lille, et que l'on trouve dans toutes les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes de France, et dans les communautés urbaines, les départements et les régions. Donc, sur le sujet l'argent et la politique en France, nous procéderons à l'étude d'un cas particulier, Chirac-Jacques, qui nous intéresse d'autant plus ce soir que nous sommes 80% quand même à l'avoir élu président. Alors, ces problèmes, à titre personnel, Chirac les a réglés une fois pour toutes, en épousant Bernadette Chaudron de Courcelles, richement dotée, plutôt qu'une quelconque Guilaine écuelle des Batignolles. Pour Chirac, l'argent, c'est pour la politique. Mais c'est vrai que pour lui, la politique, c'est toute sa vie. Alors examinez sa vie et regardez la vôtre. Et demandez-vous si ces tribunaux ne sont pas des tribunaux de la morale. Parce qu'il est un petit peu énervant, ce Jacques Chirac, quand même. Secrétaire d'État à 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez à 30 ans? Député, puis 3 fois ministre, Premier ministre à 42 ans, monsieur l'assesseur, maire de Paris à 45 ans, madame le procureur, président de la République à 62 ans et à 69 ans, monsieur le président. Lui a bénéficié d'un appartement de 1000 mètres carrés au cœur de Paris, sans se fader les agents immobiliers, ni la lecture de Paris Boum Boum, Dieu sait que c'est pénible, ou du particulier à particulier, c'est encore pire. Il a joui, messieurs les membres du jury, des charmes de 207 femmes, pour un fabuleux plaisir de 621 minutes. Il a voyagé 261 fois à l'étranger, sans jamais avoir été victime du surbooking, ce qui lui donne suffisamment de miles pour faire 39 fois le tour de la Terre. Il a des photos souvenirs avec George Bush, comme vous, c'est vrai, comme vous, mais ces photos à lui ne viennent pas du magic Photoshop de l'aéroport. C'est agaçant, je le reconnais. Heureusement, ce n'est pas un de vos proches, parce que le succès de ses amis est bien plus pénible que celui de ses ennemis. Mais attention, Jacques Chirac n'est pas arrivé là par miracle. Il a serré dans sa vie 280 337 mains, dont 83% étaient moites. Il a embrassé 23 345 retraités, dont 21 250 venaient de manger leur chocolat de Noël. Il a aussi embrassé le culte de sa femme et caressé le cul de plusieurs milliers de vaches en les appelant par leur prénom, et sa femme aussi. Alors, les hommes politiques travaillent, ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir, ils travaillent pendant les week-ends et les vacances. Ils l'ont choisi, ils l'assument. Mais cette activité, il lui faut de l'argent, il lui faut beaucoup d'argent. L'argent pour la politique, il en faut. Il y a les cars, les militants, les tracts, les brochures. À l'occasion des fêtes de Noël, quand Auchan inonde vos boîtes aux lettres de promotion sur le foie gras de Hongrie, ça lui coûte en frais d'impression et distribution à Auchan environ 1 euro par prospect. Eh bien, les prospects de la démocratie, les électeurs, bénéficie d'un budget alloué aux partis politiques qui n'est pas supérieur et qui est aussi d'un euro par prospect démocratique. Les Français ne veulent pas payer le prix de la démocratie. Ils préfèrent plus de tarama sur leur canapé de Noël et moins de débats républicains. Et ce sont ces Thénardier franchouillards qui prétendent reprocher aux causettes de la politique la collecte des moyens nécessaires au fonctionnement régulier de la démocratie et des institutions. Jacques Chirac donne de grandes réceptions, justifiées par ses hautes fonctions. Et eux, les Thénardier, ils comptent les petits fours et les papiers des petits fours. Jacques Chirac, oui, c'est vrai, il mange énormément, peut-être pas 4000 francs, mais il mange, oui, il mange, il invite. Et tous, ils mangent ensemble, avec chaleur et générosité. Et eux, les Thénardier, tapis dans les cabinets, demandent à la justice de peser ses excréments. Quant à nous, nous autres, regardons la réalité en face. Oui, oui, Jacques Chirac est coupable. Coupable d'être un homme politique et non un froid technicien incapable de gagner les élections. Ce n'est pas Barre, ni Balladur, ni Delors, ni Aubry. Oui, Jacques Chirac a fait sienne la maxime de Jean-Baptiste Botulle, le grand Jean-Baptiste Botulle, qui disait que la transparence est à la démocratie ce que la pornographie est au sentiment. Oui, Jacques Chirac incarne l'énergie de la volonté. Il peut dire tout et son contraire, cacher l'essentiel et montrer ses couilles aux journalistes pour leur montrer qu'il n'y a pas toujours loin du mythe des couilles à la réalité des testicules. Ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit quand même. Cet homme politique est sans équivalent. Il y aura dans la Ve République deux périodes, avant JC et après JC. Devant le mystère qu'il incarne, nous devons en appeler à la dernière forme de sacré qui reste dans notre société, l'onction du suffrage universel. Vous pouvez le juger, vous devez le juger, mais je demande alors que tous les Français de plus de 18 ans soient convoqués comme jurés pour rendre une décision juridiquement et politiquement incontestable. Vive la République, vive la France !
Alors nous n'allons pas attendre pour prendre notre décision. Aucune démagogie ne nous arrête ce soir. Et vous allez pouvoir juger. Vous allez pouvoir juger immédiatement l'accusé. Nous avons disposé dans la cabine qui est derrière vous un applaudimètre. C'est un appareil qui, comme vous l'avez déjà compris peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, permet de mesurer l'intensité des applaudissements. Et nous avons une équipe de techniciens en présence d'un huissier qui sont dans cette cabine obscure que vous ne voyez pas et qui sont donc prêts à opérer en écoutant vos applaudissements ou vos sifflets à la question suivante. Vous applaudissez immédiatement après que j'ai énoncé la question. Attention. La question est la suivante. L'accusé est-il sincère ? Deuxième question. L'accusé se fout-il de nous ?
Voilà, c'était le tribunal des condamnés d'avance. En 2003, c'était ce procès de JC avec Frédéric Pagès, Servé, Liffrand, Huguette Drécos, Lim, Bertrand Roté, Jean-Bernard Puy, Gérard Mordilla et Hervé Letellier et Christophe Clerc, qui était l'avocat qui a si brillamment défendu JC. Voilà, je vous retrouverai toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Florian Layani et Patrick Henry, Coyen Guyenne et Franck Adhérer ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assistée d'Agnès Le Bot et Marina Tuyez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Il me reste quelques instants pour vous signaler la réédition du livre de Nicolas Beau et Jean-Pierre Tucois, Notre ami Ben Ali. Ce livre doit dater dans sa première édition de 1999, c'est bien ça. Et donc, voilà, en 1999, il se trouvait malgré tout des journalistes en France pour apporter quelques critiques au régime tunisien. Et je me souviens comment, avec Guy Van Til, lorsque nous étions à Tunis en 2000, comment nos amis tunisiens cachaient ce livre. D'ailleurs, le photocopiaient et le cachaient sous leur parquet, sous leur matelas, pour pouvoir apprendre quelque chose sur eux-mêmes, donc par le truchement de ce travail de nos confrères. Le bouquin est réédité, je suppose qu'il est best-seller actuellement en Tunisie. Voilà, un petit peu de réclame maintenant, s'il vous plaît.
France Inter présente True Grit, le nouveau film de Joel et Ethan Coen, 10 nominations aux Oscars, avec Jeff Bridges, Matt Damon et Hailee Steinfeld.
What's your name?
My name is Maddie Ross.
Une adolescente téméraire à la recherche du meurtrier de son père, un Marshall Borgne et un ranger texan un tantinet prétentieux forment le trio de True Grit, le western des frères Cohen, actuellement au cinéma. Retrouvez True Grit dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
À demain, 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Maxime Deps. Salut.
Son pilote aurait refusé de bombarder la deuxième ville du pays. Un avion militaire libyen s'est écrasé cet après-midi près de Benghazi, à l'est de la Libye. Une information rapportée à l'instant par un journal local qui cite une source militaire. Une nouvelle information surréaliste qui atteste une nouvelle fois du climat de terreur qui plane, c'est le cas de le dire, sur la Libye, alors que le colonel Kadhafi semble ne reculer devant rien pour garder la main sur le pays. À Bruxelles, des sanctions contre le dirigeant de la Libye seraient à l'étude. C'est ce qu'a demandé ce matin Nicolas Sarkozy en Conseil des ministres. Le chef de l'État, qui avait déroulé le tapis rouge à Kadhafi en 2007, réclame désormais que soit envisagée la suspension des relations économiques et commerciales avec le gouvernement libyen. Sachez que vous pouvez à tout instant retrouver un dossier spécial sur la Libye sur le site internet de France Inter, franceinter.com. En Égypte, certains policiers n'acceptent pas d'avoir été limogés après la chute d'Hosni Moubarak. Des membres des forces de l'ordre ont incendié aujourd'hui des véhicules garé devant le ministère de l'Intérieur au Caire. Selon ces derniers, les policiers en question, qui ont versé de l'essence sur les véhicules avant d'y mettre feu, exigent leur réintégration. En Égypte, en effet, contrairement à l'armée au pouvoir, la police fait profil bas en raison du rôle qu'elle a joué dans la répression aux premières heures de la révolution du Nil. À La Haye, le tribunal pénal international a lui condamné cet après-midi un ancien haut responsable serbe jugé coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis contre des Albanais du Kosovo en 1999. L'ancien adjoint du ministre de l'Intérieur serbe, Vlastimir Djordjevic, devra purger une peine de 27 ans de prison pour ses actes. En France, les magistrats du tribunal de Nantes ont accueilli en silence cet après-midi le garde des Sceaux, Michel Mercier, venu en Loire-Atlantique pour apaiser les esprits après les propos de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Laetitia. À son arrivée au palais de justice, le ministre est passé entre deux et silencieuses de magistrats, d'avocats, de fonctionnaires et de greffiers en robe noire, tous arboraient un même badge réclamant des moyens pour la justice. En foot, il faudra un Marseille tout puissant pour contrer les Reds de Manchester United qui débarquent ce soir sur la Canebière. Les Marseillais abordent aujourd'hui les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions en véritable outsider face à Manchester ce soir. Les joueurs de l'OM vont disputer leur premier match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 1993, l'année où les Marseillais avaient soulevé la Coupe d'Europe, l'année aussi où Bernard Tapie présidait l'OM, autant dire une éternité. Le coup d'envoi est prévu à 20h45. Et puis France Inter vous adresse un grand merci à vous les auditeurs. La station a enregistré un nouveau record le mois dernier. France Inter est la radio la plus podcastée du réseau. Vous êtes près de 5 millions en France à avoir téléchargé des programmes diffusés sur notre antenne le mois dernier, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport au mois de décembre.
mercredi prochain sur France Inter.
Les briquets s'allument et c'est très émouvant.
20 ans après sa disparition.
Absolument, c'est sans appel.
Toute une journée avec Serge Gainsbourg.
Gainsbourg.
That's it.
Toutes les heures, retrouvez des témoignages, des reportages.
Ouais.
Et les plus grands titres du musicien le plus singulier de la culture française.
Serge Gainsbourg.
Vous allez vous le dire.
Et à partir de 20h, Je suis venu te dire. Une soirée hommage présentée par Vali et Didier Varro. En direct et en public du Studio 106. Avec des invités, un DJ set inédit de Gilles Peterson et les artistes phares de la nouvelle génération. Bébé Brune, Acha, Daphné, Joseph Danvers et Brigitte pour reprendre en live les plus grands titres de Gainsbourg. Pour assister à cette soirée exceptionnelle, en direct du Studio 106, inscrivez-vous dès maintenant par mail à l'adresse suivante soireegainsbourg@radiofrance.com.
Passez la journée, c'est chic, avec Serge Gainsbourg.
Mercredi prochain, sur France Inter et sur franceinter.com.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 2 au 27 mars aux ateliers Berthier, Ma chambre froide, de et mise en scène par Joël Pommerat, artiste associé de l'Odéon. Elle avait une théorie. Elle disait, dans la vie, les choses ne sont pas figées. Une situation qui ne convient pas, on peut toujours la transformer. Retrouvez Ma chambre froide dans les émissions de France Inter.
La différence.
France Inter à 16h, passé de bientôt 5 minutes. Place à Frédéric L'Odéon pour Carrefour de l'Odéon.
Merci Maxime Debs. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans 25 minutes à peu près, je recevrai deux membres du Quatuor Modigliani pour un disque Brahms qui vient de paraître, avec notamment le quintet avec piano, donc le violon solo, le premier violon, Philippe Bernard, et puis François Kiefer, violoncelle, mais ils vont venir tout à l'heure nous parler de cet enregistrement publié chez Mirare. Pour commencer, un petit voyage en musique, Édouard Lalo a écrit une symphonie espagnole parce qu'il avait rencontré un grand violoniste, Pablo de Sarasate, et ce violoniste l'a inspiré. Il a hésité sur le titre parce que dès qu'on écrit espagnol, ou comme ça, ou norvégien, on va voir plus tard, un peu plus loin, eh bien, on est suspecté, on dit tiens, il veut faire du succès en prenant une mode, parce qu'au 19e siècle, bien sûr, la mode était à l'Espagne, en France notamment, puisque l'impératrice Eugénie de Montijo venait de ce beau pays. Il a glissé sur les critiques éventuelles, et dans la loi, il a bien fait, et on se souviendra encore longtemps pour sa qualité musicale, tout simplement, de cette symphonie espagnole.